Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard le 7 février 90.
Article 4 de la question 26. Donc toujours dans cette recherche de savoir qu'est-ce que c'est que l'amour. On avait essayé de préciser dans l'article précédent le point de vue de l'amour et de la dilection. Point de vue de l'amour et de l'habitus, d'une certaine manière, d'amitié, l'état, et comment l'amour est toujours en acte. L'amour ne peut pas supporter de ne pas être en acte. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est intéressant, du reste, pour toute la métaphysique de l'acte. Voyez. L'acte est vécu dans l'amour.
L'amour.
celui à qui l'on veut ce bien, à l'égard du bien, on veut à un autre. Il y a amour de convoitise. À l'endroit de celui à qui nous voulons du bien, il y a amour d'amitié. Donc, ces deux tendances qui sont dans l'amour.
Simple et l'amour que l'on porte à une chose pour qu'elle
deux ordres. Génétiquement, j'aime la confiture. Pour qui aimez-vous la confiture? Pas pour elle. C'est pour vous. Ou pour votre ami. Et vous voyez que vous aimez quelqu'un quand vous lui portez de la confiture. La meilleure, celle que vous avez aimée, plus que tous les autres. Ou la bouteille de champagne, si vous aimez mieux. Ça dépend des goûts. Il y en a qui aiment mieux la confiture que le champagne. Alors, ils portent la confiture à leur ami. Ou ils portent le champagne à leur ami. On aime ce bien. Et on l'aime pour quelqu'un. Pour soi ou pour l'autre. En réalité, l'amour qui se porte sur le bien est relatif à la personne à qui on porte ce bien. Et donc la personne est ultime. Et donc j'aime la personne purement et simplement. Tandis que j'aime ce bien pour la personne. Donc c'est la personne que j'aime purement et simplement. Et le bien, je l'aime pour cette confiture, ce champagne, je l'aime pour la personne. Donc il y a un ordre. C'est la personne que j'aime purement et simplement. Voyez ça. C'est très fort comme analyse. Hein. Alors, je vois tout de suite les questions, les objections. L'amour est une passion, l'amitié est un habitus, d'après Aristote. Comment une passion et un habitus pourraient-ils être les termes d'une même division? Alors, l'amour ne se divise pas en amitié et convoitise, mais en amour d'amitié et en amour de convoitise. Et c'est pour ça qu'il faut dire l'amour d'amitié. Car un ami, au sens propre, est celui à qui, oui, nous voulons du bien. Et l'on parle de convoitise à l'égard de ce que nous voulons pour nous. J'aime ce bien. Je l'aime pour moi. Convoitise. Je l'aime pour l'ami. Amour d'amitié. Alors, troisième objection. D'après Aristote, l'amitié peut être utile, agréable ou honnête. Or, l'amitié utile et l'amitié agréable ne sont pas sans convoitise. Celle-ci ne doit donc pas s'opposer à l'amitié dans une même division. Dans l'amitié utile et l'amitié agréable, on veut vraiment du bien à son ami. Et cela autorise à y parler d'amitié. Mais ce bien de l'autre, on le veut en définitive pour son plaisir, à soi ou son utilité, ce qui fait que l'amitié utile et agréable n'atteint pas à la véritable amitié, parce qu'elle est faussée par l'amour de convoitise. Seul l'amour d'amitié honnête est vraiment l'amitié au sens fort. Les deux autres sont des amours de convoitise à l'intérieur de l'amitié. C'est pour ça que ce n'est pas la véritable amitié. Mais c'est très très intéressant comme division. Parce que saint Thomas montre que l'amour implique en lui-même l'aspect de convoitise et l'amour d'amitié. Et c'est pour ça que c'est l'amour qui se divise en convoitise et amour d'amitié. Au fond, ça nous montre que le véritable amour se termine toujours à la personne. Parce que l'amour en soi d'être spirituel, donc de se terminer à la personne. Et un amour qui s'arrête au bien matériel. matériel n'est pas un véritable amour. J'aime pour moi. J'accapare. C'est ça la convoitise. J'accapare le bien. Tandis que je ne peux pas accaparer la personne. Et donc je l'aime pour elle. Donc voyez, cette première question sur l'amour me fait comprendre ce que c'est que l'amour. Passion qui implique la convoitise et donc premier génétiquement parce que je suis un être sensible, mais ce n'est pas le véritable amour. Le véritable amour implique un dépassement de la convoitise pour aimer la personne à qui j'aime, à qui j'offre ce bien que j'aime. Vous voyez bien ça. Donc, comment se fait cette division de l'amour? Tout est là, tandit into. L'amour tend into. Tandit into. Les deux directions. Qui la personne. Quis. Ce bien sensible pour quelqu'un, pour moi ou pour un autre. Pour moi, l'amour captatif, vous voyez, comme disent les psychologues aujourd'hui, l'amour captatif, l'amour d'oblation, l'amour captatif, j'attire vers moi, l'amour d'oblation, j'offre. Je ne peux offrir qu'à une personne. On dirait que l'amour captatif, je le prends pour moi. Je mets les clés dans ma poche. L'amour captatif. J'aime les clés. J'ai mis dans ma poche. Le pot de confiture, je l'aime. Pour moi. Je l'aime pour mon ami. Mais en réalité, je ne m'arrête pas à la confiture. C'est évidemment un bien sensible. Donc c'est un bien relatif. Alors, la question 27, donc, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est ça que je cherche. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors, pour bien comprendre ce que c'est que l'amour, je vais regarder les causes de l'amour. Nous en venons à l'étude de la cause de l'amour. On étudie la cause pour mieux comprendre ce que c'est que l'amour. Alors, le bien est-il la seule cause de l'amour? La connaissance est-elle cause de l'amour? La ressemblance est-elle cause de l'amour? Et quelque autre passion de l'âme? Le bien est-il la seule cause de l'amour? Saint Augustin dit, assurément, il n'y a que le bien qui soit aimé. Le bien est donc la cause unique de l'amour. Le bien suscite en moi l'amour. Il n'y a que le bien qui suscite en moi l'amour. Donc il est cause de l'amour. Donc pour comprendre ce que c'est que l'amour, je dois regarder le bien. L'acte pour Aristote est entelecheia. Energeia. Entelecheia, l'amour. Energeia, le bien qui attire. Qui cause l'amour. Alors voici le corps de l'article. Nous l'avons déjà dit. L'amour relève de la puissance affective, force passive, dont l'objet. Vice passive, dont l'objet, par suite, se réfère à elle. Comme la cause de son mouvement et de son acte. La cause propre de l'amour sera donc l'objet même de l'amour. Or, l'objet propre de l'amour est le bien. L'amour, en effet, implique une certaine connaturalité de celui qui aime, de l'aimant, vers l'aimé. Complaisance en lui. Bonne naturalité, complaisance en lui. Et d'autre part, le bien est ce qui est bonne naturel et proportionné à chacun. Nous pouvons donc conclure que le bien est la cause propre de l'amour. Le bien attire, mystérieusement. Le bien réalise cette attraction. Et voyez, ça demande prend le bien sensible, le bien spirituel. Le bien spirituel, c'est la personne. Le bien sensible, c'est la confiture. Vous voyez toute la différence qu'a le bien sensible et la confiture. Il y a des gens qui aiment d'être dans la confiture. Ils sont dedans. La béatitude, c'est d'être dans un tonneau de confiture. Il y a des gens comme ça, ils aiment être dans un tonneau de confiture. Ils peuvent lécher la confiture, vous voyez. C'est ça aussi. Et le bien spirituel, c'est la personne. Le bien sensible, vous l'aimez pour vous. La personne, vous l'aimez pour elle. Et c'est le bien. L'un commande la concupiscence. L'autre commande l'amitié. C'est un rêve, vous voyez, être dans un tonneau de confiture. Et vous vous réveillez en léchant la confiture. C'est extraordinaire. Mais c'est admirable ce qu'il dit. Le bien suscite l'amour. C'est le bien qui me fait comprendre ce que c'est que l'amour. Puisque c'est par la cause que je connais les faits. C'est une connaissance scientifique, donc une connaissance parfaite. C'est par le bien que je connais l'amour. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. C'est le vieux dicton. C'est le bien qui attire et qui suscite l'amour. L'amour, je ne saurais pas ce que c'est sans regarder. La cause de cet amour qui est le mien. Alors, tu vois tout de suite les objections. Pour mieux comprendre, je comprends très bien ça, c'est une simplicité remarquable. L'amour, c'est tendre vers le bien. L'amour, c'est être connaturalisé vers ce bien. L'amour, c'est la complaisance en ce bien. C'est ça l'amour. Donc, le bien est cause de l'amour, cause finale. L'amour n'a comme cause que la cause finale. Ça ne peut pas être autrement. Je suis tendu vers le bien. Alors, première objection. Le bien n'est cause de l'amour que parce qu'il est aimé. Or, il arrive que le mal aussi soit aimé. Selon ce mot du psalmiste, qui aime l'iniquité, elle est son âme. Haï son âme. C'est très beau du reste. Hein. Qui aime l'iniquité, a en haine son âme. Sinon, on pourrait dire de tout amour qu'il est bon. Très extraordinaire comme objection. Le mal n'est jamais aimé qu'en raison du bien. Ça, c'est la réponse. C'est-à-dire, en tant que bien relatif, que l'on prend pour un bien pur et simple. De sorte que tel amour est mauvais, parce qu'il tend vers ce qui n'est pas absolument le vrai bien. C'est en ce sens que l'homme aime l'iniquité. En tant que par elle, il obtient certains biens comme le plaisir et l'argent. Donc ce qui est très intéressant et très important à comprendre, c'est que le mal n'est jamais aimé que sous la raison de bien. Et le mal n'est aimé que sous la raison du bien. Donc le mal n'est jamais aimé qu'en raison du bien, c'est-à-dire en tant que le bien relatif que l'on prend pour un bien pur et simple, en tant que bien relatif, de sorte que tel amour est mauvais parce qu'il tend vers ce qui n'est pas absolument le vrai bien. C'est en ce sens que l'homme aime l'iniquité. En tant que par elle, il obtient certains biens. J'aime l'argent parce qu'il me permet d'acquérir telle ou telle chose. Pour certains, c'est une glace d'été. Donne-moi une pièce pour que je puisse acheter quelque chose. On a un désir. Alors, on aime l'argent comme un moyen qui me permet d'atteindre cette jouissance immédiate quand il fait chaud la glace. En Italie, la séduction immédiate. C'est pas l'argent, l'argent, ça m'est égal. Mais c'est ce bien. Oui. Donc, l'iniquité, l'argent d'iniquité, je l'aime parce qu'il me permet de procurer ce bien. Ce bien immédiat. C'est tout le temps comme ça, du reste. C'est pas le mal qu'on aime. Mais on aime ça en fonction d'autre chose. Seconde objection. Aristote écrit que nous aimons ceux qui disent le mal qui est en eux. Serait-ce le mal à cause de l'amour? Ceux qui disent le mal qui est en eux ne sont pas aimés pour leur mal, mais précisément parce qu'ils disent ce mal, dire le mal qui est en soi. En effet, à raison de bien, en tant que par là est exclue la feinte et la simulation. Dieu aime le pécheur qui avoue son mal. C'est pas parce que Dieu aime le mal. Dieu aime le pécheur qui avoue son âme. Le Père Maître aime celui qui avoue sa faiblesse. L'ouverture du cœur. Il avoue sa faiblesse. Pas parce que du tout il aime la faiblesse. C'est parce que, en disant la faiblesse, il pourra se dépasser. Ceux qui disent le mal qui est en eux ne sont pas aimés pour leur mal. Et précisément parce qu'ils disent ce mal, dire le mal qui est en soi, en effet, à raison de bien, en tant que par là est exclue la feinte et la simulation. Je suis vrai quand je montre ma fragilité. Et c'est parce que justement je suis vrai quand je montre ma fragilité que j'aime qu'on dise sa fragilité. D'après Denis, non seulement le bien, mais aussi le beau est aimable à tous. Le beau est identique au bien. Leur seule différence procède d'une vue de la raison. Difference rationnée. C'est pas tout à fait d'une vue de la raison. Ils sont différents, rationnés par la raison. Et ça, c'est objectif. Le bien étant ce que tous désirent, il leur appartient d'apaiser ce que le désir, tandis que le beau est de nature à apaiser le désir qu'on a de le voir ou de le connaître. C'est pourquoi les sens les plus intéressés par la beauté sont ceux qui connaissent davantage, comme la vue et l'ouïe, au service de la raison. Nous parlons en effet de beaux spectacles, de belles musiques. Les objets des autres sens n'évoquent pas l'idée de beauté. On ne parle pas de belles saveurs ou de belles odeurs. On voit donc que le beau ajoute au bien un certain rapport à la puissance connaissante. Le bien est alors ce qui plaît à l'appétit purement. C'est très très simple comme raisonnement de saint Thomas. Très très simple. L'objet propre de l'amour est le bien. Or, l'objet propre de l'amour étant le bien, l'amour, en effet, implique une certaine connaturalité de l'aimant vers l'aimé. Et d'autre part, le bien, c'est ce qui est connaturel et proportionné à chacun. Le bien, c'est ce que tous désirent. Donc ce qui est proportionné, ce qui est capable d'attirer. Nous pouvons donc conclure que le bien est la cause propre de l'amour. Voilà l'analyse. Le lien, vous voyez, le lien que saint Thomas établit ici. Entre le bien et l'amour. Le bien est étudié en philosophie première. L'amour est étudié en éthique. Au sens strict, il n'y a pas de métaphysique de l'amour. Il y a une métaphysique du bien. Et on peut parler d'une métaphysique de l'amour en ce sens que l'amour est l'effet du bien en nous. Le bien, l'amour me connaturalise au bien. Je deviens bon quand j'aime. Je suis connaturalisé au bien. Si je n'aime pas, je ne suis pas bon. Donc, le bien est propre de l'amour. Pour connaître ce que c'est que l'amour, il faut connaître ce que c'est que le bien. Et je dirais que le bien, c'est l'être en acte. L'être en acte capable de me finaliser. Le bien me finalise. C'est-à-dire, le bien suscite en moi un amour capable de me rendre bon. Alors, si vous regardez avec Aristote, vous voyez que le bien est energeia et l'amour est entelecheia. L'amour m'unit au bien. L'amour me rend bon, me connaturalise au bien. Il me fait bon. Et vous précisez ce qu'est l'amour par le bien. Vous ne précisez pas. Alors, quand on dit qu'est-ce que c'est que le bien, c'est ce que tous désirent. Vous voyez, vous définissez, c'est ça qui est très très curieux. Vous définissez le bien par l'amour, ce qui est une mauvaise définition. C'est comme si vous définissez le feu par la fumée. Analogiquement, comprenez bien. Parce que ne dites pas que l'amour, c'est la fumée du feu. Quelquefois, c'est ça. Quelquefois. L'amour de concupiscence, c'est la fumée. Ça fume. Oh, c'est pas étonnant, il aime. C'est la fumée. C'est la bûche froide, humide et qui fume. Tandis que l'amour, alors on dit que l'amour c'est le feu, le bien c'est le feu, qui allume. Alors vous voyez toutes les expressions classiques sur l'amour qui viennent toujours à essayer de montrer comment, quand on aime, on tourne autour de l'amour. Connaissance est-elle cause de l'amour? Ça, c'est une question extrêmement intéressante. Oui.
Oui. Dans le cas de l'homme vis-à-vis de Dieu.
Non.
Dans le cas de l'homme vis-à-vis de Dieu.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui lui permet d'avoir cette proportion à ce bien?
En l'aimant. En l'aimant. pose la question, vous voyez, les théologiens se posent la question, pouvons-nous, sans la grâce, avoir un amour d'amitié avec Dieu? Ils répondent non. Parce que la code naturalité est beaucoup trop lointaine. Mais par la grâce, oui. Oui, c'est même la définition de la grâce. La grâce me permet d'avoir un amour d'amitié avec Dieu. Donc d'être en code naturalité avec Dieu. Et d'entrer en code naturalité avec Dieu. Par l'agapé, par la charité. Tandis que s'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas de code naturalité. Donc il ne peut pas y avoir au sens strict un amour d'amitié. Il y a un amour de désir. Il y a une attente. Ce que je disais tout à l'heure à propos de l'éternité. Vous n'êtes pas en code naturalité avec l'éternité. Or Dieu est éternel. Alors, la connaissance. Saint Augustin démontre que nul ne peut aimer ce qu'il n'y a. Vous voyez, les deux autorités, c'est Aristote et Augustin. Pour Saint Thomas, c'est les deux grands qui connaissent l'amour. Et c'est très beau. Augustin, c'est Platon. Un Platon baptisé. Et c'est vrai que les deux grands auteurs qui ont parlé d'amour, on pourrait ajouter Plotin. Platon, Aristote, Plotin. Et Saint Thomas domine parce qu'il est chrétien. Saint Augustin démontre que nul ne peut aimer ce qu'il ignore. Alors voyez, condition sine qua non, la condition sine qua non est-elle une causalité? C'est la grande question. S'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'amour. Donc, la connaissance détermine l'amour. Hein, pas le sophisme. Ça, c'est un très beau sophisme. Fourrez-le dans les pattes des gens, ils ne sauront pas répondre. Si je ne connais pas, je n'aime pas. Donc, la connaissance est cause de l'amour. Vous voyez le sophisme, c'est un sophisme, c'est pas vrai. Je peux pas dire. La connaissance est une certaine cause. Voyez, vous allez voir Saint Thomas. Le bien, avons-nous dit, est cause de l'amour par manière d'objet. Per modum objecti. Per modum finis. Or, le bien n'est objet de l'appétit qu'en tant qu'il est connu. Par suite, l'amour requiert une certaine perception. Bien. Amor requirit aliquem apprehensionem, certaine appréhension du bien qui est aimé. Ce qui fait dire aux philosophes que la vision corporelle est le principe de l'amour sensible. Et à cause de ça, le philosophe dit que visio corporalis est principium amoris sensitivi. Et de même, la contemplation de la beauté spirituelle ou de la bonté est principe de l'amour spirituel. Ainsi donc, la connaissance est cause de l'amour, au même titre que le bien, qui ne peut être aimé que s'il est connu. Alors là, on va voir. Sic igitur cognitio est causa amoris, et en ratione, quoi et bonum, quoi non potest amare nisi cognitum. Alors, est-ce que c'est tout à fait juste de dire, selon la même raison, il faudra préciser. C'est une condition sine qua non. Si je ne connais pas, je n'aime pas. Alors, est-ce que c'est la cause de la même façon? Alors, tout dépend ce que c'est que la condition sine qua non. C'est très important, ça, pour distinguer